ce midi avec votre invité Emmanuel dans nos studios et jusqu'à 13h, André Barthaud.
Oui, on va parler d'un livre pour ce premier rendez-vous de l'année avec un Montois de référence, un entrepreneur de référence, André Barthaud, bonjour.
Bonjour.
Et d'abord, très belle année à vous. On va commencer
Merci,
comme ça.
Merci, vous aussi.
Moi, on a bien commencé l'année parce que j'ai lu votre livre ce week-end, ce récit autobiographique de vos toutes premières années. Donc, on démarre à Salertaine, on va aller à Saint-Jean-de-Mont, les vacances chez vos grands-parents à Beauvoir-sur-Mer. On vous découvre. Une mémoire pleine de souvenirs. Je suis assez bluffée par le détail, d'ailleurs, de ces souvenirs que vous avez remontés jusqu'à, évidemment, la création et le développement de la Micaline. On le sent au fil de votre plume, le grand plaisir que vous avez d'abord eu à vivre ces années et à les raconter.
Tout à fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet inventaire de ma vie, finalement, parce que je commence à avoir un petit peu de bouteille, comme on dit, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et que les souvenirs sont venus tranquillement au fil des jours. J'ai mis un peu plus d'un an à le faire, et franchement, j'ai vraiment vécu cette expérience, c'est la première,
hein, oui.
Avec bonheur.
Vous avez écrit ce livre, vous le dites de suite, hein, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-loups, c'est une expression que vous avez empruntée à votre grand-père.
Tout à fait, c'est mon grand-père qui utilisait cette expression, il m'appelait toujours son petit-loup, bon, donc l'héritage, je le fais suivre.
Alors, il y a votre vie, mais aussi celle d'un autre personnage que l'on découvre dans ses moindres détails, dans un parcours rempli de sensations, d'odeurs, de sons, parfois de silence aussi, de mutations, c'est celle de votre territoire, de votre terroir.
Oui.
Il a une grande place, ce territoire.
Il a une très très grande place. D'ailleurs, si j'ai implanté l'entreprise, c'est d'ailleurs parce que j'aime ce pays et que mon objectif, c'était surtout de vivre là où j'avais envie de vivre. Et c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai apprécié à la fois la mer, le marais, la forêt. Je suis un homme de la nature. Mes premiers pas dans la vie ont été dans ce monde agricole avec mes grands-parents. Et voilà, je voulais pas le quitter.
Eh ben on sent, hein, au fil du récit, on comprend effectivement cette installation est permanente effectivement à Saint-Jean-de-Mont. Alors c'est bien un livre d'un Vendéen aussi que l'on découvre avec la préface d'un autre Vendéen, Yves Jolier. Je découvre que vous le connaissez depuis longtemps, depuis le lycée.
Alors je le connais depuis... Je l'ai connu il y a très très longtemps et je l'ai redécouvert évidemment parce que je lui ai fait lire mon manuscrit et il m'a dit « Mais c'est pas mal ce que t'as fait, c'est même très très bien ». Et dit, je suis d'accord pour le préfacer, parce que je l'avais bien prévenu, j'ai dit, si ça vous plaît pas, ou si vous pensez que ça mérite pas, voilà. Il m'a dit, non, il est très bien, et il faut même le diffuser, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait, et vraiment, c'est un grand bonheur de l'avoir recôtoyé, ce monsieur, parce que je l'avais comme pion quand j'étais à Richelieu. J'étais pendant quelques années à Richelieu, et je l'avais comme pion pendant ses études, et c'est un type charmant.
Et il était déjà un grand conteur, ça, on va lire le livre pour comprendre pourquoi. Le titre, Dans le silence de mon père, évidemment, c'est un autre personnage très important de votre livre et de votre vie, mais déjà les larmes de votre père, puisque vous démarrez vraiment l'ouvrage sur le récit d'un souvenir, d'une sépulture où votre père vient serrer des mains, que la plupart lui refusent. La scène est très forte et votre mère vous racontera qu'effectivement les larmes ont coulé et elle vous touche d'autant plus que c'est un peu vous qui êtes visé derrière
Oui, bah, mon père il a accepté le verdict de mon destin et de ma vie, hein, c'est-à-dire le développement d'une entreprise à partir de son entreprise à lui. Mais effectivement, bon, le fait de développer à la grande échelle un peu ce que j'ai fait à la petite échelle dans un de mes premiers pas de responsable d'entreprise a effectivement perturbé un peu le métier de boulanger. J'en conviens volontiers. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'évolution d'un métier. Comme dans la charcuterie, vous avez des industriels qui fabriquent pour certains charcutiers des produits, et des plats cuisinés pour effectivement, parfois pour la restauration, etc. Donc, notre métier n'est pas épargné par le développement, par des initiatives nouvelles, et j'en ai fait partie, et j'en suis à la fois fier. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu de l'ombre à mon père, puisque, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous lisez le livre,
on va pas tout dire.
Vous aurez des réponses oui. à mes questions, mais ça a été quand même un peu une vie parallèle, mais en silence.
Et vous avez eu des réponses assez tard, on va
et
le dire.
Et on a eu une réponse.
Oui. Le silence de votre père, que vous décrivez aussi, alors je vais vous citer, un taiseux en famille, mais bavard et passionné dans sa vie associative, il aimait le foot, la vie municipale, la fête. Pourtant, j'ai consommé son silence, écrivez-vous, m'éduquant de son exemplarité. Ses mots brillaient par leur absence, mais pour moi, ses actes étaient un livre. Tout est dit.
Voilà, c'est ça. Je n'ai pas été éduqué par ses mots, mais par son exemplarité. Son silence m'a aussi accompagné. Et il ne m'a jamais rien reproché, moi non plus. On a vécu ensemble, on a eu beaucoup de respect l'un pour l'autre. Mais chacun a fait son chemin et voilà, il est parti. Mais seulement j'ai eu la révélation de son état d'esprit que beaucoup plus tard. Mais ça, c'est dans le livre, effectivement.
En deuxième partie.
C'est un épisode assez particulier.
Et assez fort. Cette scène de ses larmes ouvre le livre, donc, dans lequel vous nous racontez votre parcours. Et d'abord, celui d'une famille qui va s'installer, alors apparemment, au début du 20e à Salerten. Une famille aux origines irlandaises.
Oui, alors, c'était une famille de meuniers. Hein, et il y aurait d'après certaines personnes qui ont fait des recherches, un certain nombre de moulins qui étaient Barthaud. Effectivement, cette famille avait un peu envahi la région et avait construit les premiers moulins à vent, sans doute. Et le moulin de la Bourrie, le moulin de Réré, etc., la Copchanière, etc.
C'est votre famille.
Tout ça, c'est les mêmes origines. Et donc, mon grand-père, lui, a créé une boulangerie à Salerten. C'était à l'époque où les fermes abandonnaient la fabrication de leur pain. Et c'était une des premières boulangeries de Salerten. Et à partir de là, mon père a fait ses armes dans cette boulangerie. Moi, je suis né là-bas. Et après, on a eu effectivement l'exode rural qui a fait que Salerten s'est un peu appauvri en quantité de population. Et mon père a choisi de reprendre la boulangerie de sa sœur. À Saint-Jean-de-Mont. Et tout ça, je le raconte en détail parce que c'est l'histoire d'une vie, et d'une région, d'une passion aussi. Et voilà, donc j'apprécie vraiment à la fois ma région, à la fois cette population. Moi, je suis un maraîcher un peu hors souche. Mon père né à Salerten, ma mère à Beauvoir. On peut difficilement faire mieux, quoi.
Et vous-même, vous naissez, vous le dites là, dans un vrai, à la faveur d'un vrai fou rire que vit votre maman. Voilà, ça commence bien.
Oui, je suis né d'une blague, effectivement. Je devais naître le 3 ou 4 avril. Et finalement, il y a une farce qui a été effectuée le 1er avril par des ouvriers de la maison. Et c'est dans un éclat de rire que je suis venu au monde. Donc, c'est assez sympa.
Alors, on va pas tout raconter, mais voilà, ça commence bien, effectivement. Puis on découvre plein de récits, d'anecdotes, parfois croustillantes, parfois poignantes. Alors, vous l'avez dit, à 5 ans, 1957, votre famille s'installe à Saint-Jean-de-Mont. Et c'est le théâtre de votre genèse, de jeux d'enfants. Il y a une vraie ambiance, les 400 coups, hein, dans vos premières années. À la fois bon enfant, insouciance et beaucoup de rire avec vos copains.
Oui, la vie était, on va dire, calme, sereine, la joie de vivre des enfants se lisait partout dans le quotidien, la liberté était totale, les mamans du village étaient toutes, on va dire,
encadrantes et bienveillantes.
Elles encadraient l'ensemble des enfants, les unes et les autres, et qu'on avait une totale liberté, la forêt, la mer, le marais, tout ça, on y allait quand on voulait. C'était franchement une époque, hélas, un peu révolue. Les enfants sont souvent sous la surveillance des parents, pour de bonnes raisons sans doute, mais la vie n'est plus la même de ce point de vue-là.
Ah, vous nous racontez la dune et le silence de la dune, les petits écureuils que vous allez apprivoiser après une chasse assez impressionnante. Les graines semées dans l'enfance développent de profondes racines. Ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est Stephen King que vous citez. Et donc vous nous racontez effectivement cette ambiance. Et puis cette ville, cette commune qui s'anime l'été avec vacanciers, saisonniers, et au fil des ans qui va se transformer. Vous avez vécu son évolution, des bouleversements profonds parfois. Et évidemment aussi la boulangerie familiale, les livraisons de pain aux maisons reculées, ça déjà, ça a l'air. Vous le faisiez, vos premières saisons en tout cas, enfin vous le faisiez, votre famille le faisait, vos premières saisons, la décision de vous former aussi à un métier, décision venue de votre maman.
Oui,
un peu subie.
Comment ?
Un peu subie.
Alors non, c'est-à-dire que moi j'ai pas fait le métier que j'ai choisi.
Ah voilà.
Vous savez à cette époque, si ton père était médecin, tu devais être médecin. Si ton père était menuisier, tu devais devenir menuisier. C'était un peu ça. Mon père était boulanger, je devais être boulanger. Moi je voulais aller dans l'agriculture, l'élevage plus particulièrement. L'élevage ou les beaux-arts. J'adorais peindre, j'adorais dessiner. Et le choix que j'ai dû faire, c'était celui de mes parents que j'ai accepté le verdict, parce que j'étais un gamin relativement facile, je me posais pas de questions. Puis à l'époque, on n'intervenait pas toujours sur nos choix. Hein. Tu vas faire ça parce que c'est comme ça, tu vas gagner ta vie, etc. C'est ce que j'ai vécu pleinement. Sauf qu'avec de fil en aiguille, j'ai un peu tordu le cou à ce qu'on m'a imposé. Hein. Je suis devenu Je suis sorti du métier de boulanger à proprement parler, puisque mes mains ont quitté la farine, si on peut dire.
Vous êtes allergique en plus.
Comment ?
Vous êtes allergique à la farine.
Alors, mes premières années d'apprentissage, j'étais allergique à la farine. C'était un signe déjà. Ouais. Mais bon, j'ai accepté tout ça et j'ai fait avec mon environnement humain. J'ai eu la chance d'être accompagné par une épouse et une sœur, enfin toutes les deux extraordinaires. Après, j'ai eu des jeunes collaborateurs qui sont venus se greffer, qui ont fait des saisons avec moi, qui pendant leurs études, des jeunes qui en voulaient. Et on est parti dans cette aventure. C'est les premiers magasins, ce sont des saisonniers qui les ont pris, hein, des jeunes saisonniers qui allaient un petit peu raqueter leur grand-mère pour ouvrir leur premier magasin.
On peut raconter ça. Et combien les saisonniers ont été importants dans la poursuite et la création de l'Amicaline.
Et on est parti dans cette aventure, et après on a affiné notre métier, on est devenu franchiseur, on est devenu des industriels plus pertinents, plus voilà. Mais bon, c'est un destin, c'est un chemin, et on a édulcoré un peu le destin qui m'a été imposé, et puis voilà, et on en est très très heureux aujourd'hui.
Donc vous nous racontez les années d'apprentissage, notamment passées à Nantes, avec des patrons plus ou moins bien dans leurs bottes.
Tout à fait.
Certains vous ont marqué justement et vous ont transformé aussi.
J'ai rencontré des personnes extraordinaires, mais j'en ai rencontré des moins extraordinaires. Bon, j'en parle, je raconte, hein, je ne cache rien. De toute façon, ce livre, je l'ai fait pour ma famille, et que si j'ai été encouragé après pour le publier, c'est parce que c'était sans doute suffisamment convenable pour être publié, mais c'est surtout une preuve de sincérité. Il n'y a pas une virgule qu'il faut changer. Je veux dire, ce que j'écris, je l'ai vécu, mais pleinement.
Donc, on sent un enthousiasme total et puis une grande capacité d'émerveillement. J'ai l'impression qu'il ne vous a pas quitté, André Barthaud.
Non, je suis toujours étonné par tout ce qui m'entoure. Je suis très curieux des événements de la vie, quels qu'ils soient, hein, les plus faciles comme les plus heureux, comme les moins. Ils apportent tous ces événements, nous apportent des réponses à nos interrogations. Et puis, je suis branché dans le monde de la nature. J'adore la nature sous toutes ses formes. J'apprécie cette région sans doute depuis ma plus tendre enfance, mais c'est un aide, c'est un guide pour moi qui me suit tout le temps.
Et vous la connaissez par cœur. Et puis donc vous nous racontez effectivement donc enfance, adolescence, apprentissage, la rencontre de votre femme. Et alors c'est très rapide, hein, la femme de votre vie quand même, qui est la mère de vos trois filles, lesquelles vous ont permis de choyer 8 petits enfants. Toute cette partie, André Barthaud, mari et père, on vous la développez pas trop. C'est assez, la pudeur revient au galop.
Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai parlé de ma vie familiale, j'ai parlé de ma vie d'homme,
oui.
Mais je pense qu'il y a toujours le jardin secret de chacun.
On le sent.
Mais c'est vrai qu'avec un peu de pudeur, on peut quand même avancer assez loin dans l'explication d'une vie. C'est ce que j'ai fait, hein. Le livre fait 300 pages. Bon, ben voilà, hein, j'ai livré ce que je pensais devoir livrer pour mes enfants, mes petits-enfants. Comme je vous le dis, j'étais toujours très bien accompagné dans ma vie, et ça c'est quelque chose de primordial pour moi. Quand vous vous levez le matin, que vous avez envie de rencontrer les gens qui vous entourent, c'est que du bonheur, quoi. Ça fait vraiment partie des choses qui m'ont marqué durant ces 45 années de vie professionnelle.
Et vous nous racontez effectivement les premières franchises, la Croix-Centrine qui va devenir la Micaline à la faveur d'un concours, ça vous le racontez aussi, en 1993, hein, et puis tout au long du récit, on vous découvre observateur, alors à la fois d'un environnement qui évolue au fil des ans, d'une société qui évolue avec de nouvelles aspirations, un regard, souvent vous le dites, sans jugement, mais tout de même appuyé sur de nouveaux règnes, la consommation, la médiatisation, surinformation, ça on le sent, ça vous titille un petit peu.
Il y a des passages obligés dans une vie,
oui,
où vous heurtez à des choses que vous aimez moins, mais que si vous en faites profit, malgré tout, rien n'est vraiment négatif, tout est sujet à rebondir. Encore faut-il le prendre ou l'entendre de la bonne oreille, mais effectivement, j'ai des rencontres très, très difficiles, ouais, effectivement, professionnellement.
Voilà, et vous nous racontez tout, et puis vous invitez vos petits-enfants, mais je pense qu'on va tous se mettre un peu dans ce rayon-là, à observer autour d'eux, à ralentir un petit peu, à quitter leurs écrans. Et voilà, c'est un beau final, hein, je trouve. Dans votre livre, je dis pas tout.
Oui, je crois qu'il est bon de dire aux jeunes gens, aux enfants, ce que l'on a envie de leur dire de notre vie, de notre passé. Et c'est ce que j'ai fait dans le livre. Et je l'ai livré avec beaucoup de sincérité. Mais c'est vrai, pour les enfants, aujourd'hui, on peut, entre guillemets, être positif et plein de, comment dire, d'espoir, même dans une période où les turbulences sont évidentes et pénibles un peu à regarder, à vivre. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour la jeunesse, parce qu'elle rebondira, comme certaines périodes, notre société rebondit dans d'autres événements très complexes.
Et comme vous l'avez fait aussi. Mais écoutez, c'est un très beau témoignage, voilà, d'une vie, d'un territoire, et puis d'une entreprise qui, évidemment, aujourd'hui, majeure, qui, évidemment, s'est ouverte dans tout le pays. Écoutez, merci beaucoup, André Barthaud. Je rappelle le titre du livre, hein, Dans le silence de mon père, aux éditions Les Moissons, qui porte bien aussi leur nom. Voilà, donc c'est un livre à lire. Et à dévorer, à savourer.
Merci.
Merci. Merci beaucoup, André Barthaud.
Merci. Merci, monsieur Barthaud. Et meilleurs vœux, bien sûr. Merci.
Oui.
Demain, 12h35, dans les rendez-vous de midi, Emma.
Bon, on va rester vers Saint-Jean-de-Mont avec l'Art Expo et sa section Histoire qui prépare pas mal de choses, dont un beau spectacle. Mais aussi, on parlera de généalogie, de témoignages de papy et mamie. Vous pouvez peut-être être ces papy et mamie qui vont témoigner sur leur parcours. Et ce sera avec Alain Joanneau, évidemment.
Demain, donc, juste après les infos de 12h30 et l'émission arrive en podcast. Comme d'habitude en 2022, sur votre site et l'appli 9. A tout à l'heure pour la bonne nouvelle musique, Lil Nas X à écouter, puis le souvenir après les infos. Johnny Hallyday et Carmel sur 9.